Europe 1.
Bonjour et bienvenue sur Europe 1 dans l'émission Les Athlètes de Dieu. Dans cette série d'entretiens, je rencontre des sportifs d'exception, des passionnés de sport, mais aussi des chercheurs de Dieu. Tous ont un point en commun, leur foi chrétienne, qu'ils considèrent comme une force motrice dans leur quête de performance et leur équilibre mental. Pour la première fois, ils acceptent de partager sur Europe 1 cette dimension intime de leur vie. Aujourd'hui, je reçois une légende du rugby français, Fabien Pelous, joueur le plus capé de l'histoire des Bleus, capitaine emblématique du 15 de France, double champion d'Europe avec le Stade Toulousain. Il a marqué l'histoire de ce sport, mais Fabien Pelous est aussi un athlète de Dieu.
Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1 avec le soutien d'Holy Games.
Bonjour Fabien Pelous.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous dans cette émission Les Athlètes de Dieu sur Europe 1. Vous êtes en forme ?
Ben oui, ça va, plutôt.
Ouais, je vois ça.
Il faut. Il faut se maintenir.
Alors, Fabien Pelous, dans cette émission, on a 4 bougies. Vous voyez, elles sont belles, de couleurs différentes. Quelle bougie vous préférez ?
La bleue, évidemment. Hein.
L'équipe de France ?
Eh oui, forcément. Il y a quand même un symbole quand même derrière le bleu.
Ah, exactement. Puis vous connaissez bien ce maillot. Vous l'avez porté de nombreuses fois. Vous êtes le recordman de sélection en équipe de France.
Effectivement, oui.
Alors, je vous la laisse. Et il y a un petit message.
Les derniers seront les premiers.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, ça dépend de quoi on parle, en fait.
Vous avez été souvent premier, hein ?
Oui, ça m'est arrivé, effectivement. Et c'est vrai que dans le sport, c'est une maxime qui ne s'applique pas très bien, quand même. Hein, parce qu'effectivement, on valorise plus les premiers que les derniers. Ensuite, dans la vie, c'est autre chose, je pense. Voilà,
dans votre vie, à vous, Fabien Pelous ?
Je ne dirais pas que c'est mon mantra. Hein. On a tendance, quand même, à valoriser beaucoup les gens qui réussissent, et peut-être à dénigrer un petit peu ceux qui ne réussissent pas, les laisser pour compte, etc. Et ce n'est pas mon cas quand même. Donc voilà, autant que dans le sport, j'applique pas tout à fait ça. Mais dans la vie, j'essaye de considérer que tout le monde est égal. Et ce n'est pas parce qu'on a une fonction plus importante qu'une autre que je mets plus de valeur à justement la valeur humaine de la personne.
Et vous le faites, d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, avec la Fédération Française de Rugby. Vous nous disiez tout à l'heure que vous organisiez justement des rencontres pour les personnes les plus fragiles, qu'il y avait des choses qui étaient faites dans les clubs et vous en avez la responsabilité.
Oui, effectivement, je m'occupe du fonds de dotation de la Fédération qui s'appelle Rugby au cœur et qui a pour but d'aider les clubs de manière générale, quel que soit le niveau des clubs d'ailleurs, à s'organiser autour du fait de faire du bien à son territoire. C'est-à-dire qu'on considère que le club de rugby, c'est pas juste organiser des compétitions, c'est aussi être un acteur majeur de la vie sociale dans son territoire et autour de choses comme le développement de la pratique féminine, du rugby santé, de l'accès à l'emploi. On aide les clubs à se structurer pour justement faire du bien à leur communauté humaine, tout simplement.
C'est fabuleux. Merci Fabien Pelous, encore une fois, d'être sur Europe 1. Et on a une petite bougie. Alors, on n'a pas le droit d'allumer les bougies dans le studio, sinon il y a la sécurité qui va débarquer. On a une bougie LED, vous pouvez l'allumer.
Génial.
Et ça va nous accompagner, nous éclairer dans nos échanges sur Europe 1 dans cette émission Les Athlètes de Dieu. Alors dans justement cette émission, on vous demandera si vous allez dans un lieu particulier pour vous ressourcer, si un saint vous inspire, une phrase de l'évangile qui vous est chère et puis une musique qui vous apaise. Mais on a l'habitude dans cette émission de démarrer par une citation d'un grand saint. Et on a choisi aujourd'hui Saint Jean-Paul II. Le sport, c'est la joie de la vie, c'est ce qu'il disait.
Je crois qu'il a dit beaucoup de choses très bien, hein, Jean-Paul II.
C'est pour ça que c'est un saint.
Voilà, et ça en fait partie, effectivement. Hein, je crois que la place du sport dans notre société, elle est là pour nous donner des émotions. Toutes sortes d'émotions, mais effectivement, la joie, c'est peut-être celle qu'on retient le plus quand on est heureux déjà de pratiquer, quand on est en joie de pratiquer, quand on est en joie de supporter supporter quand on est un joueur de voir son équipe gagner ou avoir fait le maximum pour gagner. Je crois que c'est ça. Et oui, bien sûr, tout à fait d'accord avec cette parole-là.
Mais c'est une joie qui doit être assez indescriptible quand on gagne, quand on soulève un trophée, quand on se dépense, quand on arrive à des objectifs, ce qui est votre cas, Fabien.
Ouais.
Ça doit être incroyable. Il y a presque peut-être un manque pour vous aujourd'hui de ne pas retrouver ces émotions-là.
Alors, pas du tout. Il n'y a pas du tout de manque parce que, justement, je pense avoir eu ma part, en fait, de choses. J'ai eu une carrière, effectivement, qui a été...
Phénoménale.
Oui, assez belle. Et j'ai eu la chance d'avoir ça, d'avoir fait le... d'être dans le bon club, d'être dans une période de l'équipe de France où ça gagnait et ça m'a procuré énormément d'émotions. Comme je dis souvent, j'ai l'impression j'ai eu la chance de vivre dans un domaine où on vit des émotions collectives. Et ça, c'est quand même...
Par rapport à un sport individuel ?
Exactement. Je prends souvent l'exemple du champion olympique du 100 mètres. Franchement, ça doit être... extraordinaire de passer en premier la ligne de la finale de la coupe des Jeux Olympiques.
Là, Usain Bolt qui fait l'éclair, qui remporte son titre olympique.
Mais
c'est,
il peut
c'est
le
fou.
Partager avec personne, parce qu'il n'y a que lui qui ressent cette émotion-là. Nous, on est de suite 15, 23 sur le terrain qui ressentent les mêmes émotions, et on le partage, souvent longtemps. À la troisième mi-temps, déjà, pour partager.
Ah oui, ça, c'est la tradition du rugby.
Et puis, même, je m'aperçois, des années après, parce que maintenant, quand on se retrouve pour fêter les anniversaires des titres, des 10 ans, des 20 ans, enfin, plutôt maintenant, les 20 ans ou les 30 ans de titres, ben, en fait, on se retrouve et on se remémore ce moment-là et on revit un petit peu les émotions en décalé. Et c'est ça, je crois, qui est important.
C'est une famille, le rugby. Parce que quand souvent j'interroge avec Jacques Vendroux des sportifs, et on nous disait notamment les Verts de Saint-Etienne en 76, ils se retrouvent, ouais. Ils se revoient. Est-ce que c'est le cas pour vous ?
Oui, on se revoit régulièrement quand même, tous les joueurs, notamment autour des matchs de l'équipe de France. Et puis encore une fois, il y a pas mal de joueurs qui sont impliqués dans des associations caritatives. C'est aussi un prétexte pour se retrouver, pour faire communauté, encore une fois, autour d'une œuvre, autour de quelque chose qui nous rassemble finalement.
Tout à l'heure, je disais que vous étiez et vous êtes une légende du rugby. Mais ce qu'on aime bien aussi, c'est laisser nos invités se présenter.
Ouais.
Comment vous vous présentez, vous, aujourd'hui ? Bonjour Fabien Pelouse, je suis une légende du rugby, non ?
Non, je me présente par mon nom et prénom déjà, parce que ça identifie bien. Je dis souvent que je suis un ancien joueur professionnel de rugby et que j'ai eu la chance de jouer dans une période qui m'a permis finalement d'accéder à des titres, à des records et voilà. Après, tout ça c'est assez générationnel, hein. C'est vrai que les gens qui ont suivi le rugby il y a 20 ans, forcément, ils m'ont vu un moment sur des écrans, parce que ce soit avec le Stade Toulousain ou l'équipe de France, ben, quand il y avait un match, il y en avait moins à l'époque, j'étais souvent sur l'écran. et donc, j'ai marqué un petit peu les esprits. La persistance rétinienne est restée un peu longtemps par rapport à moi. Et voilà, moi, j'ai toujours cultivé un peu l'humilité. Et je sais que j'ai pas tout... J'ai rien fait tout seul. Hein. J'ai eu la chance d'être dans des équipes et de jouer avec des joueurs qui étaient plutôt bons et qui nous ont permis à tous finalement de remplir notre besace de titres.
En quelques mots, Fabien Pelouse, comment vous êtes arrivé au rugby ? Comment c'est venu ?
J'ai pas envie de dire par hasard, mais pas loin quand même. J'ai commencé tard le rugby. J'ai commencé à 13 ans. Le rugby, alors que je venais du foot.
Ah, c'est vous, donc vous avez fait du foot ?
Oui, bien sûr, j'ai fait du foot jusqu'à 13 ans, et 12 ans exactement. Et
quoi, c'est la taille du ballon qui vous allait pas ? C'est la forme du ballon ?
C'est ma taille à moi, surtout, parce que j'étais un peu déjà démesuré. À 12 ans, j'étais plus grand que mon entraîneur de foot.
Vous mesuriez combien ? Parce que là, vous faites 1m98, c'est ça ?
Ouais, mais je pense que je devais faire, déjà à 12 ans, je devais faire au moins 1m80.
C'est très grand.
Quoi. Je dépassais tout le monde d'une tête et demie. Quoi. Et c'est peut-être pour ça que je suis parti au rugby, parce que, en fait, au foot, comme j'avais la tête un peu éloignée des pieds, forcément, l'information mettait du temps à passer. J'étais pas très bon, en fait. Et donc, j'avais du mal à assumer, pour l'adolescent ou le préadolescent que j'étais, j'avais du mal à assumer ce corps un peu démesuré. Et quand j'ai goûté au rugby, je me souviens très bien de mon premier entraînement de rugby.
C'était
comment ? Je suis sorti de cet entraînement et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Parce que j'ai compris que là où mon corps était un handicap, au rugby, c'était un vrai atout au rugby. Et je crois que ça a été un peu ça mon moteur dans le rugby. J'ai voulu aller confronter ce corps un peu démesuré à ce qui se faisait de mieux pour voir jusqu'à où il allait m'amener. Et force constater qu'il m'a amené assez loin quand même.
Elle vous a bien aidé, hein, ce corps.
Sûr,
hein.
Ouais,
vous pouvez le remercier. Quel est votre premier souvenir de sportif ? Alors on en a parlé, c'est peut-être cet entraînement, mais le premier souvenir marquant de votre vie de sportif ?
Ben c'est très peu après, en fait, parce que pour la genèse, en fait, c'est mes parents, ils ont acheté une maison pour leurs vieux jours, où ils habitent maintenant, et dans le village d'à côté, à Saverdun, donc, j'habitais à Gibel, un tout petit village, juste à la limite de l'Ariège, de l'Aude et la Haute-Garonne, et ils ont acheté une maison, et c'est le voisin de cette maison qui était dirigeant et qui m'a dit, en me voyant, viens jouer au rugby, parce que, ben, franchement, avec le physique que t'as, tu devrais être plutôt bon. Bon, j'ai dit, allez, on y va. Et il m'a inscrit en même temps à la finale de réserve de 3e division de ce club, qui jouait la finale cette année-là. Et moi, j'étais jamais sorti de mon coin, finalement. Et là, j'ai pris le train pour nous amener dans la Creuse pour jouer la finale qui se trouvait là. Et donc, c'était la fête. C'était, en plus, Saverdun a gagné. Et c'était une ambiance assez extraordinaire, pour moi qui n'étais jamais sorti de ce coin-là. Et je me suis dit, si c'est ça le rugby, franchement, je crois que ça va me plaire. Et ça a été un événement assez marquant pour moi, parce que ça m'a fait rentrer dans une nouvelle activité, dans ce qu'elle a de plus joyeux, finalement. Une finale gagnée, avec le retour, tout le monde qui s'embrasse, tout le monde qui est joyeux. Voilà, je crois que ça a été un élément déclencheur pour mon amour pour ce sport.
Quel est votre premier grand souvenir de chrétien ?
Je crois que c'est un événement très banal, à la messe du dimanche, que je pratiquais jusqu'à 12 ans. J'allais parce que voilà, je viens d'une famille pratiquante. Et pour vous dire que j'étais pas très au fait, même si j'allais au catéchisme, c'est que avant ma première communion, j'ai voulu aller goûter l'hostie, parce que c'était une curiosité pour moi. Et donc je suis allé avant ma première communion, je me suis présenté devant le curé pour recevoir l'hostie. Il m'a dit non, je suis désolé, mais c'est pas possible.
Audacieux.
Et voilà, audacieux, mais je savais pas en fait, tout simplement, qu'on pouvait pas. Et donc tout le monde m'a regardé un peu avec un air bizarre dans l'église. Et puis, je suis allé me rasseoir tout penaud, et puis ensuite on m'a expliqué que oui, c'était mieux d'avoir fait sa première communion pour avoir l'hostie.
Et vous avez fait votre première communion, et ça a été un moment absolument béni.
Ça a été un moment important. J'ai pas reçu la lumière, la grâce de Dieu. C'est pas été un moment marquant pour moi dans le sens religieux, parce que voilà, je vis pas ma religion comme ça. Mais oui, c'est un moment important, je crois, pour n'importe quel chrétien.
Saint Carlo Acutis, un jeune chrétien, disait « L'Eucharistie, c'est mon autoroute vers le ciel ».
Ben voilà.
Pas mal comme phrase.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une deuxième bougie que vous aimeriez prendre, allumer, pour continuer ?
Oh ben, je sais pas, au hasard. Là.
La première, c'était une bleue. Hein.
Ouais, bien sûr. On va faire au hasard. La verte ?
La verte.
Allez.
Allez, je vous la donne. Et il y a une phrase.
Alors, par ta victoire grandit son éclat.
Par ta victoire grandit son éclat.
Ouais.
Et par votre victoire aussi, vous avez permis de faire grandir à la fois votre éclat, mais l'éclat des autres, l'éclat des coéquipiers. C'était une grande joie.
Oui, c'est ça. Et moi, j'ai toujours considéré mon engagement dans ce sport par rapport à mes coéquipiers, notamment. Hein, voilà, on parlait de famille du rugby, et je crois que c'est un peu ça. Moi, j'ai toujours voulu être bon, le meilleur possible, pour mes coéquipiers, pour les mettre eux aussi dans les meilleures dispositions. Voilà, je crois ce sens. Aigu de l'altruisme, et donc forcément que mon engagement dans le rugby, il pouvait pas passer par un autre chemin. C'est à la fois évidemment mon éducation familiale, mon éducation religieuse qui je crois m'a exacerbé ce trait de caractère, mais c'est quelque chose d'important, oui, pour moi.
Alors, il y a un événement très marquant pour les Français, mais aussi pour vous. Ça a été l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris,
ouais.
Avec une organisation fantastique pour la reconstruire.
Ouais.
Elle est aujourd'hui absolument magnifique. Ça vous a touché ?
Oui, au même titre que tous les Français, je pense. Hein. Tant sur le plan religieux, évidemment, hein, parce que très symbolique, que patrimonial aussi. Hein, parce que...
C'est une dimension qui vous touche, d'ailleurs, la dimension,
oui,
patrimoniale.
Oui, c'est une dimension qui me touche. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un patrimoine religieux pléthorique, finalement, en France. Et c'est un événement qui m'a marqué. Et le soir où c'est arrivé, je me rappelle, je l'ai vu comme la plupart des gens à la télé, j'arrivais pas à décrocher les yeux de la télé parce que j'étais ému, quoi. Ému quasiment aux larmes, parce que je me disais, on est en train de perdre quelque chose. Et la réaction, finalement, de tous les Français, elle a été géniale parce qu'on n'a pas perdu un patrimoine. On s'est donné la chance de le revoir à nouveau comme jamais personne ne l'avait vu. Et je trouve que c'est là aussi, en termes symboliques, ce qui a été fait est admirable.
Ce qui est aussi important dans votre vie, c'est d'aider, effectivement, pourquoi pas, la restauration des monuments.
Ouais.
Et il y a les cloches, les fameuses cloches de Garidège, votre village en Haute-Garonne.
Ouais.
Racontez-nous ce qui s'est passé, parce que les auditeurs peut-être vont découvrir ça, mais vous avez œuvré pour faire une collecte de fonds pour les cloches.
Ah oui, plus que ça, même, puisque je me suis occupé de la création de nouvelles cloches pour le clocher de Garidège. C'était un clocher mur toulousain. Et il y avait 5 baies dans ce clocher, et on n'avait que 3 cloches. Et donc, pour le Saint-Saint de l'église Saint-Jean-Baptiste de Garidège, donc on a décidé aussi avec le conseil municipal, on a fait ça collectivement, mais de terminer finalement la réfection de l'église qui avait été faite ces dernières années par justement la création et la pose de deux cloches. Et ça a été un moment génial parce qu'on a eu la chance de faire ça in situ. Il y a peu de cloches qui se font, qui se coulent sur place. Et nous, on l'a fait grâce à la société Paccard, d'ailleurs, de Sevrier, à côté d'Annecy, qui est le dernier fondeur de cloches français à faire ça sur place. Et j'ai adoré finalement tout le processus de la décision jusqu'au questionnement de se dire mais qu'est-ce qu'on va mettre sur ces cloches ? Parce qu'on a la responsabilité de créer un objet extrêmement symbolique, à la fois religieusement et patrimonialement, qui va durer 300 ans. Et donc, il ne faut pas trop se tromper quand même dans ce que l'on va apposer sur ces cloches, jusqu'à le baptême, jusqu'au fait qu'on a eu un petit clin d'œil je sais pas comment on peut l'appeler,
du ciel
sur la fonte des cloches, déjà parce que il faut pas fondre au moment de la quand il pleut.
Il
a fait beau et il s'est mis à pleuvoir 5 minutes après la fonte des cloches. Un petit signe aussi, c'est qu'on devait monter les cloches juste après le baptême qui a été fait par l'évêque de Toulouse. Et malheureusement, il y avait trop de vent, on n'a pas pu les monter ce jour-là. Donc ça a donné une occasion supplémentaire de faire un événement supplémentaire pour le faire un mois plus tard pour monter les cloches. Donc on a eu tout un déroulement comme ça et tout un tas de choses qui se sont mises en place pour justement financer les cloches, pour pouvoir faire en sorte de faire vivre cet événement au plus grand nombre, à tous les Garidéchois, des plus petits de la maternelle qui ont eu un concert de cloches jusqu'aux primaires, qui sont allés remplir le four finalement de l'alliage qui allait constituer les cloches et pour cet événement qui a été hyper spectaculaire au moment de la fonte, c'était et au moment aussi du décochage. C'est le décochage des cloches, c'est un événement important. C'est la naissance des cloches finalement. C'est là où elles prennent vie. Et ça, c'était un événement qui a été fort pour tous les gens qui ont assisté. Ouais.
Fabien Pelous sur Europe 1, les cloches. On va entendre les cloches de Notre-Dame.
C'est beau, hein, des cloches qui sonnent.
C'est tellement beau.
Ouais.
Et en plus, pour la petite histoire, les cloches que vous entendez, enfin, il y a une cloche en tout cas, la cloche qui était au Stade de France. qui a servi pour les Jeux Olympiques.
Eh bien,
le mouvement Holy Games, qui nous aide à réaliser cette émission, qui est un mouvement catholique pour accompagner les sportifs, a donné, avec en lien avec l'organisation des Jeux Olympiques, évidemment, c'était une cloche des Jeux Olympiques, donc on les remercie beaucoup, le CIO et puis Tony Estanguet. Cette cloche est arrivée à Notre-Dame de Paris, et aujourd'hui, elle sonne à Notre-Dame de Paris, je crois, au moment de l'Eucharistie, juste avant l'Eucharistie.
Génial.
C'est top, non ?
Ben ouais, c'est top. C'est exactement, je trouve, le cheminement, finalement, c'est intégrer finalement un objet qui est symbolique, qui a été symbolique du sport, et l'intégrer finalement dans quelque chose qui parle à tout le monde, les cloches de Notre-Dame.
C'est important de construire, reconstruire, bâtir, vous
sauver,
aussi,
sauver.
Et dans la vie d'un homme, comment parfois, justement, on construit petit à petit ou on sauve certaines choses. Comment vous, est-ce qu'on peut faire une petite analogie entre ces cloches qu'on a élevées et entre ces moments de vie où il a fallu justement peut-être sauver quelques moments
Ouais, je sais pas. Je crois que chacun essaye de se débrouiller un peu comme il peut par rapport aux questionnements, aux problèmes, aux écueils auxquels il se confronte durant sa vie. Et chacun y répond par des manières différentes. Il y en a qui vont trouver des ressources dans la foi, d'autres qui connaissent pas et qui, justement, au cours d'un moment problématique, se tournent vers la foi. Moi, je crois que chacun a la capacité de vivre sa foi de manière différente. Et par rapport à ça, moi, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre sa foi. Il y a juste des façons personnelles.
On disait juste au début de cette émission qu'on aimerait bien savoir s'il y a une musique qui vous plaît, qui vous apaise, qui vous entraîne. Alors, dans les vestiaires, il y a dû y avoir pas mal de musique, hein, j'imagine.
Oui. Elle n'était pas trop religieuse, hein, la musique dans les vestiaires. Non, elle n'était pas trop religieuse. Après, c'est vrai que vous m'aviez demandé une musique peut-être liturgique. Et en fait, j'ai une histoire avec la musique d'église ou les chants d'église qui est un peu, je dirais pas traumatisante, mais disons qui n'inspirait pas forcément à l'émotion, parce que je suis allé à l'église tous les dimanches jusqu'à mes 12 ans, et comme dans certaines églises en France, on avait une dame, Marie-Jeanne.
Qu'on l'on salue, Marie-Jeanne.
Voilà, qui est décédée maintenant. Et qui surnommait la fleur, et qui chantait affreusement mal, mais vraiment affreusement mal. Et donc, toute l'émotion qui se dégage des chants religieux, normalement, j'ai pas eu accès finalement à cause de ça. Mais c'est vrai qu'il y a des musiques religieuse quand même qui me marque, l'Ave Maria par exemple, était quand même une musique qui est assez universelle et qui, je crois, est, en tout cas moi, m'émeut particulièrement quand t'entends La Calas ou Barbara Hendrix chanter l'Ave Maria. Je crois que ça prend quand même aux tripes. Ouais.
L'Ave Maria, ça c'est sûr, ouais. c'est sûr, c'est incroyable, c'est fantastique, c'est un chant qui est très émouvant. Et donc on va remercier, c'est Marie-Jeanne, c'est ça
Marie-Jeanne, tout
pour, à fait. Pour ces chants, ouais. Parce que mine de rien, franchement, quand on est dans l'assemblée et qu'on critique, on ne devrait pas, parce que ces personnes-là, elles se donnent, elles prennent du temps pour chanter.
Exactement.
Et c'est ça qui est beau. Quel plaisir d'accueillir Fabien Peloux sur Europe 1 dans ses studios pour l'émission Les Athlètes de Dieu, immense joueur de rugby et grand témoin du Christ aujourd'hui, émission que nous préparons avec Holy Games, un mouvement catholique qui accompagne les sportifs. Et dans un instant, je vous demanderai si vous avez l'habitude de vous appuyer sur un saint ou sur une figure inspirante. Mais comme on a déjà deux bougies sur la table, il en reste deux sur ma table et vous en avez de prendre une troisième. Allez. Vous avez le choix entre une jaune ou une rouge.
Allez, je vais prendre la jaune.
Comme mon t-shirt.
Voilà. Puisez votre énergie dans le Seigneur. Oui.
Oui.
On peut tout à fait. On peut tout à fait. Pour avoir joué avec de nombreux joueurs, effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui s'inspirent. J'ai vu des joueurs, notamment sud-africains. Il y a une grosse culture religieuse en Afrique du Sud, dans le rugby notamment. Lire la Bible avant les matchs.
Ah oui.
Ouais. On voit aussi des joueurs fidjiens, tongiens, se réunir après les matchs et faire une prière pour remercier Dieu d'avoir eu la chance de jouer ce match, de ne pas être blessé, etc. On voit ça assez souvent sur les terrains de rugby. Moi, je vous avoue que j'ai jamais lu la Bible avant les matchs. Mmh. Une fois, j'ai demandé à Dieu de l'aide pour un match.
Vous vous souvenez lequel ?
Oui, très bien. J'avais fait un mauvais geste sur le terrain et je suis allé à l'église de Marcoussis faire une prière pour ne pas être sanctionné pour ce match-là. Et j'y suis allé avec un peu de remords quand même, parce que je me suis dit, le monde tel qu'il est, Dieu a certainement autre chose à faire. Mais s'il peut juste regarder mon dossier, ça m'aiderait bien.
Est-ce qu'il a regardé le dossier ?
Il a regardé le dossier parce que je n'ai pas été sanctionné.
Alléluia, génial. Et vous aviez l'habitude d'aller à Marcoussis dans cette église ?
C'était juste la première fois. C'était la première fois que j'y allais et j'y suis allé un peu. Voilà, c'est pas très loin du centre national de rugby, mais j'y suis allé à pied pour faire pénitence jusqu'à l'église et voilà, j'y suis allé. Personne ne le savait, personne ne l'a su et je crois que c'est la première fois que je le dis publiquement et que je crois que j'en ai même jamais parlé.
Merci beaucoup pour cette confidence, Fabien Pelous, sur Europe 1 dans les athlètes de Dieu. Je vous pose une question un peu indiscrète, mais là vous avez entre guillemets, déflorer le sujet. Est-ce que vous priez ?
Oui, je prie, oui. Je prie.
Ça vous aide ?
Oui, je crois que ça m'aide. Ça m'aide, c'est très intérieur. Moi, j'ai une façon de vivre la foi qui est très, très intérieure. Moi, je considère que la foi vient m'aider à faire la part des choses entre le bien et le mal. Voilà. Et c'est en ça que la foi m'aide à vivre ma vie, en fait. Voilà, à prendre les bonnes décisions.
À vivre pleinement.
Oui,
à vivre vraiment pleinement. Parce que quand je vois votre vie, elle est pleine, elle est incroyable. Elle continue avec toujours plein d'événements, plein de choses à raconter.
Ouais. Plein de choses à vivre, oui.
Vous vivez plein d'événements, effectivement.
Ouais.
C'est extraordinaire.
C'est une chouette façon de vivre sa vie. Je considère qu'une vie, je considère qu'une vie, elle se doit d'être vécue par rapport à ses passions, par rapport à ses envies, par rapport à plein de choses, à plein de critères que l'on se fixe et que plein d'objectifs que l'on se fixe. Et moi, j'ai la chance de pouvoir en vivre beaucoup. Et comme je l'ai dit souvent, je souhaite ma vie à tout le monde, c'est que je dois pas trop mal la vivre quand même.
Vous la vivez bien et nous on est vraiment heureux justement de revivre un peu tous ces événements avec vous sur Europe 1. Il y a des athlètes, je pense à Novak Djokovic, il y en a d'autres, Désiré Doué, qui se signent avant un match, peut-être aussi les Sud-Africains.
Oui, beaucoup, ouais.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé de faire, de ne pas faire ? Est-ce que vous comprenez qu'il y ait des gens qui se signent avant un match ?
Complètement. Je le comprends. Je le comprends fort bien. Moi, j'ai jamais, à part la petite anecdote dont je vous ai parlé, mais j'ai jamais introduit finalement la foi dans le rugby. Mais je crois qu'elle m'a accompagné de manière générale et de manière prégnante finalement, parce que les principes religieux, alors je n'ai pas dicté ma vie, mais m'aident en tout cas à la vivre. Et donc je suis le même homme sur le terrain, enfin j'étais le même homme sur le terrain que dans la vie. Et donc je pense que ça m'a aidé quelque part. Oui.
À être bon sur le terrain, c'est-à-dire bon, performant, mais bon aussi dans un sport qui est quand même assez particulier. Le rugby, c'est un sport de combat.
Oui.
Qui est un petit peu antinomique avec, de prime abord, avec l'évangile qui nous dit « aimez-vous les uns les autres », etc.
Oui.
Sauf que là...
Non, c'est pas ça. En fait, qu'ont du mal à comprendre les gens, c'est que sur le terrain, on a un maillot différent, on est adversaire, mais on n'est pas ennemi. Hein. C'est pas la guerre. Hein. C'est pas la guerre, le rugby. Le rugby, c'est un sport de combat où il faut défendre une ligne, il faut défendre son maillot, il faut défendre ses coéquipiers. Mais moi, il m'est arrivé de jouer contre des gens en face qui étaient des amis, donc que j'aimais. Et ça m'empêchait pas de leur asséner des gros plaquages, le plus gros plaquage que je pouvais. En plus, parce que les repas du dimanche après, il fallait quand même montrer qu'on avait été bon sur le terrain. Mais il faut pas tout confondre. Hein. Voilà, il y a être adversaire et être ennemi. Et le rugby, c'est pas une guerre, c'est juste un sport.
Alors on va écouter quelque chose que vous connaissez très bien, et on va vous demander si justement c'est religieux, si ce n'est pas religieux, si c'est guerrier, si ce n'est pas guerrier. Écoutez, mais alors là, il faut mettre le casque, Fabien.
Le casque, oui.
Et on écoute sur Europe 1 dans les athlètes de Dieu. Vous reconnaissez Fabien Pelous?
Oui, un peu quand même. j'ai eu à l'écouter pas mal de fois.
Oui.
Le haka, oui.
Voilà.
Je peux même vous dire qui c'est qui le chante. C'est Perry Whipou.
Vous allez arriver à reconnaître la personne qui chante le haka? Mais
ah,
c'est
oui.
Incroyable.
Oui, ben non, quand même. Ben,
Bah celui-là, il est, oui,
celui-là,
il est connu.
Il est légendaire quand même. Mais oui, effectivement, c'est. C'est un moment important pour les Blacks, quand même. C'est un moment où ils font appel à plein de choses, finalement, au ciel, à la terre. Et il y a une notion, évidemment... alors, je dirais peut-être pas religieuse, mais je dirais en tout cas spirituelle. Spirituelle, voilà. Parce que je là-bas aussi, il y a beaucoup de christianisme et de catholicisme. Et donc, je pense qu'ils vivent ça aussi comme un peu comme un rituel spirituel, en tout cas.
Comment on réagit face à ça, quand on est joueur de l'équipe de France?
Oh, il y a plein de façons de réagir, mais on réagit de manière différente. Et c'est un moment important aussi pour l'équipe adverse, hein, parce qu'on peut faire plein de choses pendant ce moment-là. Je me rappelle que pour une demi-finale de Coupe du Monde, on s'était remis tous en rond et on avait chanté la Marseillaise pendant le haka. Donc on avait chanté deux fois la Marseillaise pendant les hymnes et pendant le haka. Et ça avait été un moment fort pour nous parce que c'était notre haka à nous aussi. En 2007, on s'était mis en quart de finale à Cardiff, on s'était mis en bleu, blanc, rouge devant eux. On avait avancé.
Et vous avez avancé.
Voilà. Et
vous étiez presque face à face.
Exactement.
C'était incroyable.
Et on avait lancé le défi à ce moment-là. Et c'est vrai que ce moment qui était important pour eux, ça a été un moment aussi important pour nous. Moi, j'étais en fin de carrière, c'était ma 117e sélection. J'en avais connu. Des hymnes, des haka, etc. Et le moment de fierté que j'ai ressenti là, je ne l'avais jamais ressenti, donc c'était un moment fort aussi.
Et c'était incroyable ce match. Justement, on a retrouvé une petite archive. Écoutez.
On a pris cher contre des forêts, donc je crois que pas grand monde nous donnait de chance contre ces Blacks. C'est vrai qu'il a tout fallu, hein. On a eu de la réussite, on a eu énormément d'état d'esprit pour défendre jusqu'à la dernière minute. Mais voilà, c'est passé et voilà, on a annoncé haut et fort qu'on voulait être champion du monde. On est encore dans le jeu.
Un certain Fabien Pelous, il y a quelques années, capitaine de l'équipe de France, victoire des Bleus face aux Blacks, et tout le monde s'en souvient, moi je m'en souviens, c'était un moment incroyable de fierté, de joie et de bonheur. Vous aussi, c'était fou ce moment-là, de victoire. Même si, au final, les Bleus n'ont pas été champions du monde.
Mais oui, c'est ça, on reste un peu toujours sur la fin, sur notre fin, mais c'est vrai un peu, que finalement, l'émotion dégagée, elle est conditionnée par les attentes qu'on peut avoir par rapport aux équipes. Et c'est vrai que ben, sur ce quart de finale en 2007, cette demi-finale de 99, il n'y a pas grand monde qui donnait chair de notre peau. Et en fait, finalement, l'émotion, elle est à la hauteur de l'exploit que l'on a fait, finalement. Parce que comme personne ne nous voyait vainqueur, ben, le fait de gagner, ça décuple finalement les émotions.
Avec un certain Sébastien Chabal qui fait une entrée fracassante.
Ouais.
C'était vraiment un grand, grand moment de sport. Alors, vous avez une responsabilité très importante. Vous avez été capitaine du 15 de France.
Ouais.
Comment avez-vous vécu cette responsabilité qui n'est pas anodine? Comment on fait pour diriger, entre guillemets, des joueurs, pour peut-être apaiser des conflits, pour conseiller, pour être le grand frère? C'est un peu ça. Est-ce que le capitaine, c'est le grand frère?
Oui, c'est à la fois le grand frère, c'est à la fois le relais de l'entraîneur aussi, c'est à la fois celui qui veille à ce qu'on ait tous confiance les uns aux autres, à ce que les relations interpersonnelles se passent bien. C'est un peu tout ça, être capitaine. C'est plutôt C'est un peu un grand frère, notamment quand on a un peu d'expérience dans ce poste-là. Et c'est aussi l'exemplarité dont on doit faire preuve pour mener son équipe. C'est-à-dire que il faut être engagé dans ce que l'on fait, il faut être respectueux de à la fois des règles, des adversaires, de l'arbitre. C'est montrer l'exemple, en fait. C'est montrer l'exemple.
Est-ce que le meilleur capitaine, ça a été Jésus?
En tout cas, il a montré une voie. Il a montré une voie. Je crois qu'il a, il a il a fait des adeptes. Donc, je crois qu'on peut considérer que ça a été un très grand capitaine. Oui, c'est sûr.
Vous étiez 15, eux, ils étaient 12.
Oui, c'est vrai.
Mais il y avait des apôtres différentes tailles, j'imagine, des minces, des gros, des musclés.
Oui,
je ne sais pas comment était Saint-Pierre.
Je ne sais pas non plus, mais effectivement, oui, c'est réunir plein de profils différents, plein bien sûr de profils physiques, mais aussi de profils psychologiques différents, et faire en sorte que tous ces profils-là, on les fasse jouer en équipe et on ne fasse plus qu'un. Et je crois que c'est ça, la famille dont on parle, la famille du rugby, la famille des chrétiens. C'est à un moment ressentir ce sentiment d'appartenance qui fait que jouer pour une équipe, c'est pas pareil que jouer pour l'adversaire, en fait. Et c'est peut-être le parallèle qu'on peut faire entre le sport d'équipe, le rugby en particulier, et la religion. Oui.
Je voudrais vous demander, et c'était un petit peu l'objet de cette partie, de cette interview, la figure, le saint, ou la personne qui peut, ou qui vous aide, ou qui vous inspire. Est-ce qu'il y a un personnage historique ou un saint, quelqu'un qui a œuvré pour le bien? Qui vous aide, je ne sais pas, Mère Teresa, un pape, quelqu'un, un ancien sportif
En fait, je n'ai pas un mentor. J'essaye en fait de, allez, je vais dire le mot, mais de piquer chez chacun ce qui me paraît intéressant à reproduire. Et je crois que j'ai eu cette faculté dans ma vie à piquer de mes professeurs, de piquer à piquer de mes entraîneurs, des petits textes, des petites lectures que j'ai pu faire, qu'elles soient religieuses ou non d'ailleurs, ce que je pensais être retranscriptible dans ma vie. Et je crois que ça a été ça, ma qualité. Donc non, j'ai pas une figure préférentielle. Et puis, parce que je sais que aussi l'humain est multifacette et qu'on peut piquer quelque chose de bien à quelqu'un sans que ce soit un saint, justement, sans que ce soit un saint.
Fabien Pelousse est l'invité d'Europe 1 dans Les Athlètes de Dieu. Je vous demanderai dans quelques instants, Fabien, si vous avez un lieu qui vous apaise, un lieu pour vous ressourcer. Mais avant cela, j'ai quelques cartes dans les mains. Vous pouvez en piocher une.
Allez, j'en pioche une. La bleue, encore une fois.
Vous aimez bien le bleu, hein, décidément.
Ça va bien avec mes yeux.
Alors, vous pouvez la lire.
Alors, quel passage de la Bible vous accompagne dans les moments importants de votre vie? Alors, c'est un passage de la Bible, je ne saurais pas vous le resituer, mais qui dit « À quoi sert-il de gagner le monde si on y perd son âme ?» Et je trouve que c'est un passage qui, finalement, peut être un mantra pour la vie entière. Parce que, en fait, c'est une façon de déterminer, encore une fois, le bien et le mal. Et je trouve que c'est quand même un mantra ou un passage de la Bible qui est vraiment... Enfin, en tout cas, moi, que j'ai l'impression d'utiliser au quotidien, en fait. Chaque fois que j'ai une décision à prendre, je me dis, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que je suis en phase avec moi-même et avec l'idée que je me fais de ce que doit être ma vie? Et c'est un passage qui me plaît bien.
C'est beau. Effectivement, c'est beau parce que ça ressemble sur l'essentiel. Et parfois, on a envie d'aller dans une direction ou dans une autre. Et on se dit comment on peut choisir.
Surtout dans un monde qui nous pousse quand même beaucoup vers l'individualisme. Ouais. Et c'est une phrase que je trouve qui fait sens, qui fait un sens collectif. Est-ce que l'acte que je fais va avoir des conséquences négatives pour les gens et est-ce que je suis capable d'assumer ça? Ouais. Et souvent, je réponds non, en fait. Je ne suis pas capable d'assumer de faire du mal aux gens.
Alors, cette phrase, c'est Marc 8:36. Merci à Holly Games et à Isabelle de Châtelut qui m'a glissé ça dans mon casque. Parce que là, moi, je n'aurais pas été capable de la retrouver. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que donnerait-on en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles face à cette génération infidèle et rebelle à Dieu, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et puis Jésus leur disait encore, je vous le déclare, c'est la vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. Mais enfin, ça revient sur comment suivre Jésus. En fait, l'évangile, Jésus est au milieu de sa foule avec ses disciples et il a cette phrase au début qui est importante, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Ça, c'est chaud, non ? Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Vous avez pris votre croix, vous, Fabien ? À un moment ?
Tout aux proportions gardées, c'est vrai que quand on a la responsabilité d'un capitana, on se doit de porter l'équipe. Mmh. Et des fois, on la porte et ça ne se passe pas bien. Et donc, il faut aussi assumer ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que j'ai porté ma croix ? Bon, je crois que le terme est un peu fort, peut-être. Mmh. Mais c'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus difficiles. Et nous, on a la chance de le vivre collectivement, comme les chrétiens vivent collectivement aussi, peuvent vivre collectivement les écueils, les moments difficiles de leur vie. Et je crois qu'il faut aussi s'appuyer, bien sûr, sur... les gens qui vous entourent, les collectifs qui sont très importants justement pour ne pas se sentir seul. Et c'est vrai que les collectifs rugby, les collectifs religieux sont en ce sens des supports finalement pour passer les écueils de la vie.
Fabien, je vais vous laisser cet évangile.
Ah,
plus précieux que l'or. C'était l'évangile des sportifs. Lors des Jeux Olympiques de 2024, il a été distribué, il était présent à l'église de la Madeleine.
D'accord.
Et Holly Games donc, l'a réalisé avec des témoignages de différents sportifs à l'intérieur et qui sont assez parlants, notamment Alison Felix. Ma foi calme mon cœur, une grande sprinteuse américaine. Aurélien Diès, la foi m'aide à garder espoir quand je me blesse. Il est champion olympique de judo. Tanguy de la Forêt, prier, c'est un échange avec Dieu. Il est champion paralympique. Voilà, il y en a pas mal et peut-être qu'un jour, pour une réédition, il y aura Fabien Pelousse à l'intérieur.
Merci.
Est-ce qu'il y a, Fabien, un entraîneur qui vous a marqué plus qu'un autre?
Ah oui, Guy Novès, que j'ai pratiqué
à Toulouse.
À Toulouse, pardon, que j'ai pratiqué pendant, que j'ai connu pendant 12 ans, mes 12 années à Toulouse, et qui, lui aussi, est un fervent chrétien et qui prie beaucoup. Il priait. Je l'ai vu prier dans les vestiaires. Et puis nous, on avait quand même aussi. Je pense à l'aide de Dieu à notre époque, et je crois que ça se fait toujours maintenant, parce qu'avant chaque finale du championnat, il y avait un des dirigeants du club qui était missionné pour aller à Lourdes, et recueillir de l'eau de la grotte, et aller ensuite la verser sur la ligne d'embut de chaque côté, au Parc des Princes à l'époque, et au Stade de France maintenant, ça se fait toujours, oui.
Ça se fait toujours, tiens, il y a une finale du Stade Toulousain du top 14, ouais. On va mettre de l'eau de Lourdes.
Ah oui, bien sûr.
Extraordinaire. Et ça vous a porté chance parce que là, vous avez été plusieurs fois champion de France,
oui,
champion d'Europe.
Oui, on a perdu de temps en temps aussi.
Et Lourdes, vous connaissez d'ailleurs ? Vous y êtes allé ?
Bien sûr, oui. J'y vais régulièrement.
C'est un lieu qui est plaisant pour vous ?
Oui, c'est un lieu qui est plaisant. J'y vais régulièrement. J'ai la chance d'habiter à Toulouse, donc de ne pas être trop loin. Et de temps en temps, sur un déplacement, des fois même un départ en vacances, on s'arrête à Lourdes pour faire une prière et pour profiter du lieu et de la ferveur.
Qu'est-ce qui vous marque le plus ? C'est cette ferveur, justement ? Ce sont ces malades qui vont se tremper, se baigner pour espérer être guéri, ce sont ces guérisons miraculeuses.
La ferveur, ce qui me marque le plus.
C'est le sportif aussi qui parle. Il y a un côté, cette ferveur du stade et cette ferveur à Lourdes.
Peut-être que je suis plus sensible à ça, finalement, quand je me déplace à Lourdes. Mais c'est vrai que je trouve ça extraordinaire. On voit des gens exaltés, en fait, quand ils arrivent dans ce lieu. Et on voit que ça leur fait du bien. Et c'est génial.
Vous êtes mariale ou pas ? La Vierge Marie, c'est une personne qui est présente. Est-ce que vous la considérez comme une maman, comme
Non. Non, en fait, je vis pas ma religion par rapport à Marie. Je la vis par rapport à la foi et à Dieu en général. Voilà.
Ouais, ouais. Fabien Pelous, moi, je voudrais qu'on parle de l'après-carrière, parce que c'est intéressant et on voit que justement toute votre vie est illuminée par Dieu, parce que vous avez vraiment réalisé des choses parfois qui sont assez extraordinaires. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le témoignage, la façon dont vous avez vécu ces événements. Et cette après-carrière, elle est aussi très riche, parce que vous avez œuvré dans le rugby. J'ai vu que vous aviez essayé d'être pilote d'hélicoptère, il y a du judo, enfin bon, il y a plein de choses.
Il y a plein de passions, effectivement. Oui.
Qu'est-ce qui vous passionne, enfin, tout vous passionne?
Bah, je suis curieux de nature, c'est à la fois, je crois, une grande richesse, c'est à la fois un peu mon défaut, parce que comme je m'intéresse à beaucoup de choses, j'ai envie de faire beaucoup de choses, et des fois je suis un peu, pas difficile à suivre, mais en tout cas j'ai des journées bien remplies. Ouais, j'ai beaucoup de passion, en fait, et donc je me régale et je m'investis dans beaucoup de choses, en fait, et ça, c'est chouette. Mais jamais seul, en fait.
Avec des amis, avec
tout le temps, ouais. Tout le temps, avec des amis, avec des gens. J'aime bien les aventures collectives, en fait.
Ah ouais, c'est formidable. Et quand vous êtes justement au judo, qu'est-ce qui vous amène à faire du judo? Vous avez une ceinture, d'ailleurs?
Oui, j'ai une ceinture noire de
judo. Ah, vous êtes ceinture noire de judo?
Ouais, mais comme en fait, vous faites pas de judo certainement, parce que
non, je fais pas du tout de judo.
Parce qu'en fait, moi aussi, avant de faire du judo, je considérais que la ceinture noire c'était le Graal du judo. En fait, c'est juste la ceinture noire, c'est le début de l'investissement dans le judo, en fait. C'est-à-dire qu'on connaît quelques prises et qu'on a fait quelques compétitions pour pouvoir avoir la ceinture noire. Donc c'est une entrée dans le judo, c'est un passage. J'ai envie de dire, alors que c'est considéré comme un Graal, et voilà. Et c'est vrai que dans le judo, encore une fois, ça s'est fait un peu par hasard aussi. J'ai terminé ma carrière, j'ai commencé le judo après ma carrière, et j'avais mon fils qui faisait du judo dans le village dans lequel j'habitais, et à Montastruc, le club de judo de Montastruc, et j'allais le voir de temps en temps le mercredi, et j'allais l'amener, le chercher, je restais un peu aux entraînements. J'ai dit, ça a l'air chouette comme sport quand même. Et donc je me suis présenté, j'ai dit, est-ce que vous avez des cours pour adultes? Je ne savais pas comment c'était organisé. Ils me disent, bien sûr. Bon, écoute, tu viens lundi prochain. Par contre, bon, normalement, on prête les judos, mais on n'en a pas à ta taille, donc tu en achètes un et tu reviens lundi. Et pareil qu'après mon premier entraînement de rugby, j'avais 35 ans, donc je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Ça me plaît. Parce que justement, il y avait cet échange. Alors, il n'y avait pas cette notion collective, mais il y avait cette notion de transmission. En fait. Et là où dans le rugby j'étais celui qui transmettait, je me projetais dans une activité où j'étais celui qui recevait. Et j'ai adoré ça, hein. J'ai adoré apprendre un nouveau sport, alors que j'étais plutôt celui qui apprenait, celui qui était très bon et qui avait la science en rugby. Je redevenais celui qui ne savait rien, quoi.
D'ailleurs, on vous a pas demandé, mais pourquoi vous étiez deuxième ligne et qu'est-ce que vous avez préféré faire, c'est-à-dire plaquer, réceptionner. Parce que vous êtes rapproché du ciel. Hein,
oui, pour le coup.
Vous étiez très haut. Hein,
surtout,
grâce aux coéquipiers.
Par les coéquipiers, tout à fait. Ouais. Bon, j'aimais tout, en fait. Ouais. Moi, une préférence pour la défense, parce que c'est vraiment un rapport très physique, très basique, j'ai envie de dire. C'est toi contre moi, et c'est celui qui fait reculer l'autre. Et le plaquage est très symbolique de ce moment-là, ou de ce concept-là. Et donc, ouais, j'ai beaucoup aimé le plaquage, mais je m'ai tout faire sur le terrain.
Fabien Pelous, je suis obligé de vous poser une ou deux questions sur cette équipe de France.
Bien sûr.
Parce que là, franchement, ça serait une faute professionnelle de ne pas le faire. Antoine Dupont.
Oui.
Je sais, on vous l'a déjà posé, je sais, etc. Tout le monde dit qu'il est extraordinaire, mais il est vraiment extraordinaire.
Non, il n'est pas extraordinaire. Il est mieux que ça. Il est mieux que ça.
Racontez.
Ben en fait, Antoine Dupont, on s'attend à ce qu'il fasse des choses incroyables. Et comme je vous dis, il fait encore mieux que ça. Moi, il me bluffe en permanence. Et pourtant, j'ai eu la chance d'entraîner l'équipe de France des moins de 20. Donc, de l'avoir eu dans l'équipe quand j'entraînais. Il était déjà bon. Mais ce qu'il amène au rugby... pas qu'en termes d'image, hein, mais ce qu'il a amené au rugby en termes sportifs, parce que moi je me cantonne à ça en fait, je trouve que c'est assez extraordinaire. Il a poussé la technique, le physique, la vision du jeu de ce sport à un autre niveau. Et je trouve que et en plus c'est un garçon extraordinaire, donc on a la chance de l'avoir dans le rugby. Oui.
Est-ce que le 15 de France va finir par... décrocher ce titre mondial? Il y aura une Coupe du Monde en 2027.
Ouais, en Australie, ouais.
Et vous avez été en finale, vous connaissez ces moments qui sont difficiles. Mmh. La finale, elle ne se perd pas, elle se gagne. Mmh. Est-ce que cette équipe de France, elle peut aller faire ce que vous n'avez pas réussi, mais que vous avez essayé, que vous avez vraiment touché au but presque?
Ouais. Ouais, comme je dis souvent, en 99, à 30 points près, on était champion du monde. Ouais, donc c'était pas
l'Australie.
Ben oui, en fait, on se rapproche tous les jours de notre premier titre mondial.
Non, il y a eu quand même 95, parce que face aux Sud-Africains, ça a été quand même une histoire où quelques années après, on se redit encore, on aurait dû
oui,
les battre.
On aurait dû.
Mais bon, c'était Mandela, c'était tout ça.
Bien sûr, on aurait dû, on aurait pu. Oui, mais le sport, c'est pas ça. Le sport, c'est juste avoir un point de plus à la fin du match. Et tout ce qui peut nous aider, ben notamment la religion pour certains. Parce qu'on parlait des Sud-Africains. La dernière Coupe du Monde, allez, on se remue un peu le couteau dans la plaie. Mmh. Mais la dernière Coupe du Monde, quand même, quand on y pense, ils gagnent leur quart de finale d'un point, leur demi-finale d'un point et la finale d'un point. On sait qu'ils sont assez religieux, que la religion les aide dans leur
préparation.
Dans leur préparation. Mmh. Quand tu gagnes d'un point, tu peux te dire que c'est peut-être juste ça qui les a fait gagner. Il faut s'accrocher à tout. Et pour revenir à l'équipe de France, on a la chance d'avoir une équipe avec des joueurs qui sont vraiment extrêmement bons. Et on a certainement une génération qui peut regarder toutes les équipes du monde en disant les yeux dans les yeux, en tant que joueur de rugby, on est aussi bon que vous. Et donc on a légitimité à être champion du monde. Ce qui n'était pas forcément le cas des autres générations, parce que moi, ma génération, on a fait une finale de Coupe du Monde, mais on n'était certainement pas les meilleurs joueurs du monde. Et donc, c'est peut-être la différence de cette génération, c'est qu'on peut gagner la Coupe du Monde sur notre vraie valeur. Et ça, c'est quand même déjà plus facile quand même pour en gagner une.
Pour terminer ces beaux échanges, et je vous remercie beaucoup, Fabien, je vous lis la phrase de Daniel Herrero, l'une des légendes de votre sport, dans son dictionnaire amoureux du rugby. « Passer n'est pas un acte facile. Après avoir serré la balle contre son cœur, il faut s'en séparer et l'offrir à quelqu'un d'autre. Et pour offrir, il faut être capable d'au moins d'émotion, sinon d'amour, et considérer le bonheur de l'autre comme sa propre récompense. » Fabien Pelous.
Pas un seul mot à ajouter. Je crois que ça résume parfaitement ce qu'est le rugby, en tout cas ce qu'a été mon engagement moi pour le rugby, c'est-à-dire donner pour l'autre. Voilà, que ce soit la passe, que ce soit donner son corps, donner sa sueur, donner en tout cas.
Fabien Pelous, à quel autre athlète de Dieu souhaiteriez-vous passer la balle?
Ben maintenant que je fais du judo, Teddy Riner, voilà, qui marque encore l'histoire de son sport. Je trouve que c'est un athlète extraordinaire, parce que pour faire du judo maintenant, en venant du rugby, je me disais, oh, ça va, des combats de 4 minutes, ça va, c'est que 4 minutes quand même, on les voit hyper épuisés.
C'est vrai que par rapport à 80 minutes de rugby.
Exactement, et quand je me suis mis pour la première fois sur un tatami et qu'au bout d'une minute, je n'arrivais plus à lever les bras parce que je ne pouvais plus, j'étais oxy complètement, je me suis dit, ah ouais quand même. Donc voilà, moi j'ai une admiration importante pour ce sportif-là. Ouais.
Et on l'adore, Teddy Riner, et quand il gagne dans le Golden Score aux Jeux Olympiques de 2024, ouais. C'était dingue.
C'était une dinguerie. Ah, j'ai eu la chance d'assister aux finales par équipe justement des Jeux Olympiques. olympique, avec la fameuse roulette qui tombe sur Teddy Riner. Une ambiance incroyable. C'est vrai que moi, pour les matchs de rugby, j'ai maintenant peut-être un peu de mal à m'enthousiasmer, parce que je regarde aussi par le prisme de la technique, et ça m'enlève un petit peu d'émotion. Et là, voir les finales de judo par équipe en plus, et que le scénario qui a été incroyable se termine comme ça, je suis ressorti de la salle, mais j'étais vidé. Je pouvais plus parler, je pouvais plus rien faire. C'était un moment extraordinaire.
Vous venez d'écouter un épisode d'Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1.